One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, ça y est, on est déjà fin mai, c'est notre dernière émission. Salut Ariane, du mois de mai,
oui,
salut Ghislain.
Pas notre dernière émission, mais là, moi, tu vois, j'ai failli tomber à la renverse.
C'est vrai, maintenant, mais je vous rassure tout de suite, je me suis rattrapé. Hein. Donc, dernière émission du mois de mai où on s'interroge sur la révolution sexuelle. A-t-elle eu lieu ou pas? On a répondu en partie, enfin répondu. Hein. En tous les cas, on a essayé d'illustrer cette question. Et dernière émission, on la consacre à une des figures emblématiques, on va dire, de la révolution sexuelle. Dans les années 70, il y avait une pute des plus fameuses et qui l'est restée parce qu'elle n'était pas que pute, elle était peintre et poète aussi. Elle s'appelle Griselidis Réal. Et Ghislain, je crois que tu es fan, Ariane aussi peut-être.
Non, moi j'attends d'avoir entendu les sons parce que c'est pas moi qui les ai montés, je suis pas au courant.
Tu te prononceras à la fin.
C'est un personnage absolument délicieux qui est plein de joie de vivre, d'optimisme et qui est complètement libre et révolutionnaire.
Et affranchi. Et pourtant, il n'y a pas une vue facile. Hein. Alors le mieux, c'est qu'elle. On a un certain nombre de sons à vous faire écouter. C'est une interview extraite donc d'une émission suisse, de la radio-télévision suisse, qui ça date de 2002. Et c'est Griselidis Réal qui est interviewée. Elle va se présenter elle-même, on l'écoute.
Griselidis Réal, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous.
Oui, c'est un plaisir.
Comment vous définir en 10 secondes? On a tout dit de vous, catin révolutionnaire, vous êtes écrivain, vous peignez. Tout ça est juste?
Oui, disons une femme qui a beaucoup vécu, qui n'a pas terminé sa vie et qui tient le coup contre vents et marées.
Alors on va parler un peu de ces vents et de ces marées peut-être.
Voilà, oui, hein? C'est plus intéressant que le calme plat.
Hein? Donc vous êtes une de ces dames qui, a priori, ne cachait rien, puisque vous dites oui. Je suis ou j'étais putain, prostituée, péripatéticienne. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez comme terme?
Bon, moi j'ai revendiqué toujours le titre de prostituée parce que c'est un des pires et justement il faut que les gens s'habituent à voir que c'est très humain. Et d'autre part, j'ai aussi un peu triché en mettant péripatéticienne, par exemple pour le livre où sont recensés tous les écrivains suisses. Alors, il fallait quand même mettre quelque chose d'un peu plus élégant. Et puis, pour les écrivains genevois, j'avais donné le mot courtisane, qui faisait aussi assez lyrique, enfin, assez artistique, oui. Vous comprenez, on ne peut pas toujours mettre le pire en avant, sauf quand c'est vraiment nécessaire. Hein. Parce que les gens, eux, ne se gênent pas, évidemment, à jeter là quelque chose de dramatique ou de très méprisant. Alors à ce moment-là, on le leur relance comme un boomerang, quitte à ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils se trompent.
Ah, salut les PD.
Bah, je trouve que voilà, c'est un peu posé le truc.
Oui, hein? Bah, déjà la voix, le ton,
l'accent.
Bah, c'est pas celui-ci, Ariane. Ouais.
Pardon, mais je sais plus en faire. Non, c'est pas vrai.
C'est l'accent suisse.
L'accent suisse, oui.
Et ouais, et puis le ton est posé, le propos est posé aussi, quoi.
Ah ça, elle s'embarrasse pas vraiment. Elle fait pas dans la, fait pas dans la, non, de principe, elle fait pas dans la dentelle. En même temps, elle est tout à fait. On l'entend d'ailleurs hein, dans la façon dont elle peut se nommer en fonction de là où elle est. Elle est capable, effectivement, pute, péripatéticienne, courtisane. Ben oui, c'est synonyme, mais ça dépend effectivement avec qui on en parle et où on se trouve.
Et moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'elle a un niveau de langage qui est assez étonnant.
Ah ben oui, oui,
mais inattendu.
Tout à fait. Alors, c'est quelqu'un de au départ qui naît dans une famille sans être privilégié, qui est quand même qui a eu une éducation, voilà.
Dit une famille d'intellectuels.
Une famille plutôt d'intellectuels, effectivement. Après sa trajectoire, elle en parle elle-même, hein, c'est-à-dire que elle va se retrouver dans une certaine difficulté et du coup faire le choix de la prostitution. Alors un choix peut-être dans un premier temps subi, mais elle va réussir à s'émanciper finalement de ça et à mener véritablement un combat au travers de ce choix de métier.
Et ce qui est intéressant dans son parcours, tu vois, c'est que voilà, elle dit c'est après avoir divorcé.
Oui.
Que j'avais plus le choix, fallait bien trouver un toit, fallait bien nourrir les enfants et tout ça. Et le seul choix que j'avais, c'était la prostitution. Mmh. Et elle présente les choses, en fait, elle fuit avec son amant à Munich.
Oui, c'est ça.
Et, et là, elle dit, on habitait à côté d'une caserne d'Américains. Elle dit, donc j'avais plein d'amis qui venaient avec qui on faisait l'amour. Et je trouve que c'est une façon vachement jolie de présenter les choses.
On l'écoute à nouveau.
Il y a un macro ou bien, comme on le dit romanesquement
Bon, le chapitre macro, c'est quelque chose d'assez, disons, avec beaucoup de nuances. Hein. Moi, j'avais des amants à l'époque qui supportaient plus ou moins bien que je fasse le trottoir. Moi, je disais, voilà, tu veux pas m'épouser, j'ai des gosses à nourrir, j'en ai 3 sur 4 à nourrir, alors laisse-moi travailler. Alors, ils supportaient plus ou moins, ou ils ne supportaient pas. Mais en attendant, c'était des amis, des amants. Ils faisaient des cadeaux de Noël à mes enfants. Ils m'invitaient au restaurant. Ils m'invitaient en vacances. C'était des hommes qui travaillaient, qui avaient une vie normale. Mais un vrai macro qui vous tabasse, qui vous brûle à la cigarette, qui vous ramasse votre argent dans votre sac, ça, j'en ai pas connu parce que j'en voulais pas, moi. J'ai pu aimer, être amoureuse de marginaux qui travaillaient peut-être pas fatalement tous les jours, qui étaient plus ou moins à problème, hein. Mais il y avait de l'amour, même s'il y avait aussi de la violence dans certains cas.
Et pourquoi vous ne restez pas à Genève?
Voilà, ce qui s'est passé à l'époque, donc après l'Allemagne, je suis revenue à Genève, j'ai refait le trottoir à Genève, et puis j'ai commencé la rédaction de ce livre « Le noir est une couleur ». Et à ce moment-là, j'ai obtenu une aide financière, grâce à Bertil Galland d'ailleurs, et à Maurice Chapin, j'ai obtenu une aide de Pro Helvetia. Et mes sœurs aussi m'ont aidée, je leur ai remboursé par la suite. Alors j'ai pu terminer la rédaction de ce bouquin, et puis j'ai pu arrêter le trottoir complètement. Et là, je suis partie à Paris, puisque ce livre a d'abord été édité aux éditions Ballant à Paris. Alors, il fallait faire la promotion plutôt à Paris qu'en Suisse, hein, puisque l'éditeur était français. Alors, voyez-vous, j'ai pu arrêter pendant 7 ans et 4 mois la prostitution. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que la révolution des prostituées s'est déclenchée à Paris en 75.
Ouais. Et vous y étiez?
Moi, j'y ai participé, j'ai plus jamais quitté la lutte. Et alors, à ce moment-là, je me suis remise sur les trottoirs parce qu'il fallait de l'argent, du temps, de la liberté. Et c'est là qu'on en trouve le plus, en tout cas moi. Et je devais continuer quand même à entretenir mes enfants. Donc, il fallait de l'argent. Et à ce moment-là, pour être dans une révolution, par exemple, vous êtes ouvrier, vous n'êtes pas du côté des patrons, fatalement. Donc moi, je voulais être du côté des prostituées, je voulais pratiquer la prostitution et pouvoir ensuite les défendre en toute connaissance de cause, sans tricher, sans profiter d'aucune façon. Et voyez-vous, j'ai ensuite arrêté la prostitution à la fin de l'année 95.
À la fin de l'année 95, donc.
T'imagines? l'âge qu'elle pouvait avoir à la fin de l'année 95.
Cette parce que les autres années qu'elle a dit, j'étais pas née.
Oui, Gislain.
Ouais. Ah ben, moi, j'aime bien le côté la prostitution comme acte militant.
Alors, là où c'est intéressant, c'est que, comme on l'évoquait, bon, suite à un mariage déçu, un mariage plus ou moins arrangé qui lui convient absolument pas, elle fuit. La solution, c'est la prostitution, mais pour se sortir d'un certain marasme. Mais par ailleurs, effectivement, c'est quelqu'un qui a une éducation, qui a des velléités d'écriture, qui réussit à mettre ça en branle, j'allais dire, et qui, par choix militant, politique, finalement, revient à la prostitution, bon, à la fois sans doute pour des raisons matériel, je sais pas, mais aussi pour des raisons militantes, combatives. Donc c'est là où le parcours est absolument étonnant et hors norme, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les années 70, la révolte des prostituées, elle y participe, mais vraiment presque. Est-ce que c'est de l'ordre de la vocation, je sais pas, mais en tous les cas, ça, c'est vraiment un combat politique pour elle. Pause musicale. Bah vas-y, tu la désannonces alors, celle-ci, Ghislain. Puisque...
D'accord. C'était Sylvie Tellier qui nous parlait de ses sex toys. C'est pas ça ?
Si, si, ça peut être ça. C'est Sébastien Tellier qui nous parle de son God bleu.
Ouais, j'étais pas loin.
Ouais. My God is blue, Sébastien Tellier, donc. Ariane a failli s'endormir, mais... C'est-à-dire qu'elle elle connaît la chanson.
Cochonville.
Oui, ça s'appelle Cochonville. C'est My God Is Blue, c'est le titre de l'album, mais c'est Cochonville.
Tu vois, je suis, je dors pas.
C'est bien.
C'est que...
ce bordel.
Espèce de mauvaise langue.
SLP, salut les PD, dernière émission du mois de mai, consacrée à la thématique de la révolution sexuelle, a-t-elle lieu ou pas? Et on finit en beauté avec Griselidis Real, qu'on a déjà entendu, voilà, c'est des extraits d'une interview de la télévision radio suisse, qui date de 2002. Alors, elle est morte hein, depuis Griselidis Real, mais il n'y a pas très très longtemps. 2005, ou dans ces eaux-là. Il y a un certain nombre d'ouvrages qu'on peut trouver d'elle, notamment le livre dont qu'elle a évoqué dans le son précédent, Le noir est une couleur, qui existe en poche, qui est facile à trouver et que je conseille. C'est en fait son autobiographie. Donc vous aurez tous les détails de ce que vous n'aurez pas entendu ce soir. On écoute le prochain son, elle parle effectivement de sa conception de la prostitution.
En comptant les arrêts, les reprises, en tout ça fait 30 ans de pratique. Donc j'estime que je suis toujours prostituée et que je connais bien ce métier, je connais bien les problèmes des hommes qui venaient nous trouver, qui avaient tellement besoin de nous que quelquefois on nous suppliait au téléphone. Des hommes qui avaient eu des échecs amoureux ou des pannes sexuelles ou autres et qui étaient complètement solitaires ou veufs ou divorcés, qui étaient souvent même au bord du suicide. Moi, on en a sauvé du suicide. Alors moi, je n'ai jamais arrêté de me battre avec d'autres pour faire reconnaître ces vérités-là qui sont humaines, et qui ne sont pas dans les clichés habituels.
Non, en effet, vous nous vendez la prostitution quasiment comme une œuvre sociale.
Pour moi, je l'ai dit et redit dans des congrès, même je l'ai dit en allemand, en anglais, en français, j'ai dit c'est un art, c'est un humanisme et une science, à condition d'être pratiqué volontairement et dans de bonnes conditions. Voilà. C'est tout. Et on est contre la prostitution forcée, évidemment plus que contre la prostitution des enfants. Tout ça, c'est une horreur qui ne devrait pas exister. Et les femmes qui se font piéger dans des réseaux, qui sont achetées, vendues, massacrées, mutilées, tuées, enfin bref, exploitées, tout ça, on n'en veut pas. Nous, on veut que ça soit vraiment une pratique qui relève d'un libre choix et qui soit pratiquer avec conscience, avec humanité, avec intelligence, avec imagination aussi, avec beaucoup de feeling humain. Et ça, ça s'apprend tous les jours. Voyez-vous, c'est une chose qu'on ne peut pas inventer. Vous apprenez sur le tas. Mmh. Chaque homme pose un problème différent. Moi, je me mettais dans la peau des autres. Je disais, voilà, pourquoi cet homme est venu me trouver? Pourquoi il est triste? Pourquoi il a besoin de moi? Pourquoi il est gay? Pourquoi il rigole? Pourquoi, dans le fond, il n'est pas si gay que ça? Et qui cache peut-être une souffrance. Et tout à coup, il va me la poser devant moi parce qu'il a confiance. Voyez-vous, tout ça, ce sont des rapports humains bouleversants, pas évidents, et qui n'arrivent pas tous les jours à tout le monde.
Vous argumentez professionnellement? Quand on fait un métier, on le fait bien.
Voilà.
C'est très moral ce que vous nous dites
oui,
là.
Vous pouvez être dentiste, ouais. Chirurgien, vous pouvez être garagiste, peu importe, ouvrier. Si vous faites bien votre boulot, en toute conscience, avec du cœur à l'ouvrage, eh ben c'est du bon travail. Et si vous le faites mal, en tout cas, en tant que prostituée, vous ne gardez pas beaucoup de clients. Hein.
Bon, moi j'aime beaucoup cette vision de la prostitution.
Ouais, mais alors après, effectivement, c'est un art, un humanisme, une science. Elle en parle comme telle.
Pratiquée dans de bonnes conditions, hein.
Ouais, en toute conscience. Enfin bon, c'est vrai quand on l'entend. Non pas que ce soit un témoignage idyllique, parce que en même temps quand on l'écoute quand on écoute l'interview du début à la fin, on voit bien que c'est des questions qui sont extrêmement complexes. Sa vie, elle est faite d'une succession effectivement de moments forts, mais qui sont de moments de souffrance, de moments difficiles. Mais on a l'impression que C'est des choses qu'elle digère, qui l'enrichissent, et voilà, qui du coup l'amène à exercer son métier avec toujours plus, on va dire, de finesse et d'humanité, quoi.
Bah, elle dit que c'est un métier à risque, en fait.
Oui.
Elle dit que c'est un métier à risque. Oui. Et puis, comme disait la Minute Blonde, ce qui me déchire pas me rend plus fort.
La Minute Blonde disait ça.
Oui. C'est un peu ça, en fait.
Mm-hmm. Ariane.
J'essayais de me mettre le visuel Minute Blonde avec la voix de Grisée. Excusez-moi.
En fait, elle se fait ses petits délires.
Mais c'est toi,
elle
tu
a pris des
de
trucs
Frédéric
juste
Bell
avant,
et tout,
tu vois.
Et puis voilà.
Et
alors,
là, elle plane.
D'un coup, j'étais là. Mis avec le discours de. Excusez-moi, je. Pardon.
Bon, là, on est dans le. Presque, je dirais, la philosophie Griselidis réelle, en tous les cas, pour ce qui concerne son point de vue sur la prostitution. Est-ce que... Enfin, moi, je trouve que c'est un discours... un discours, c'est même pas ça, c'est une pensée qui est profondément intéressante et qui va à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Voilà, le discours sur la prostitution. Quand on écoute Griselidis Réal, on est en total décalage. Donc, où est la vérité dans tout ça? Moi, ça m'interroge énormément.
Arrête de parler au singulier,
quoi.
Déjà, et tu nous feras des vacances, quoi.
Oui, où sont les vérités? Non, mais ce que...
Vas-y, Ariane, poursuis, là.
Bah oui, non, mais le problème, c'est que les... Justement, ce qui fait qu'il est difficile de discuter avec des abolitionnistes, c'est que souvent, on a affaire à une problématique de discours unique.
Ouais.
C'est-à-dire que selon les chiffres, les statistiques, machin, bah, c'est surtout de la traite de personnes, donc c'est que de la prostitution subie, donc il faut abolir la prostitution.
Ça y est, elle se réveille. Ouais. Vas-y.
Et puis c'est dans le il faut abolir, c'est ça le discours auquel on se heurte, et c'est un discours parce que dans la forme c'est il faut, c'est totalitaire, et donc de parler de la vérité et donc d'un singulier, pour moi c'est déjà une forme d'oppression.
Voilà, il y a des trucs qu'il faut pas dire avec Ariane.
Ouais, bah, Philippe, mais si, pour la faire réagir justement, voilà.
Non, mais en tout cas je suis bien d'accord avec toi que ça va totalement à l'encontre de la propagande actuelle sur la prostitution, et ça fait beaucoup de bien d'écouter des gens comme ça.
Mmh. Alors on l'écoute à nouveau.
C'est des vrais gens qui existent et pas des statistiques dans des livres, bordel. J'ai encore dit bordel.
On l'écoute.
C'est quoi pour vous un homme? C'est un client du magasin des dames?
Non, pour moi c'est un être humain qui a une dimension qui peut être poétique ou dramatique ou au contraire très harmonieuse, perturbée momentanément peut-être par des problèmes qu'il a. Et il faut le traiter avec beaucoup de respect, beaucoup d'humanité, mais sans se laisser exploiter ou écraser. Moi je disais, voilà, je suis là pour te faire du bien, mais tu n'es pas là pour me faire du mal. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et le mot que j'utilisais le plus souvent dans la pratique, je disais doucement, doucement, pas de brutalité. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux comme ça.
Alors peut-être que vous n'avez pas été brutalisé, certaines de vos collègues l'ont été, c'est quand même un métier difficile.
Si, moi j'ai...
Aride, non? Oui.
Mais bien sûr qu'il m'est arrivé aussi des tuiles, on voulait m'étrangler, on voulait me tuer, on m'a volé, enfin, ce sont les risques du métier. Donc, il ne faut pas pratiquer un métier à risque si vous avez tout le temps peur. Au contraire, il faut montrer qu'on n'a pas peur, mais qu'on n'est pas dupe. Mmh. Voilà. C'est tout aussi une technique à aborder, enfin, à développer, vous comprenez? Ça se fait au fil des années. Au début, vous êtes peut-être naïve ou un peu insolente, vous croyez que tout vous est dû parce que vous êtes jeune et belle. Eh bien non, il faut respecter l'autre dans ce qui lui manque et dans ce qu'il demande.
Alors, forcément, derrière, ça suppose aussi toute une, je dirais, un cadre, une pédagogie pour exercer ce métier-là dans les conditions qu'elle peut évoquer, quoi. Alors, elle le dit à un moment, hein, j'ai appris sur le tas. Est-ce qu'il y a d'autres façons éventuellement d'apprendre ce métier, ben voilà, la question est posée.
Tu veux dire, est-ce qu'il y a des écoles de prostitution?
Non, je En tout cas, c'est une question qui est sous-jacente dans son discours, quoi. C'est-à-dire, comment on apprend ça? Elle a appris sur le tas, mais elle laisse entendre derrière qu'il y a tout un vide. Parce que apprendre sur le tas, c'est une chose, mais on apprend au fil des expériences, plus ou moins difficiles, plus ou moins douloureuses. Est-ce que il serait possible d'éviter ça? Et dans quel cadre?
T'as l'impression qu'en fait, quand tu l'écoutes, que une bonne formation en psychologie, ça serait pas mal. Je sais pas, t'as l'impression qu'il y avait d'écoute de l'autre, tu vois, enfin, moi, dans son discours, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire la dimension humaine et la dimension de relier à l'autre, d'écoute de l'autre et juste écouter. Enfin.
Puis il y a aussi le côté, quand elle parle de dimension sécurité, il y a aussi se connaître soi, parce que Ce qu'on donne à voir à l'autre, à comprendre dans le langage non-verbal, au-delà de... Enfin voilà, avoir des notions qui te permettent de comprendre l'autre, c'est une chose, mais si tu ne te rends pas compte du langage que tu tiens, verbal et non-verbal, de ce qui se passe dans l'interaction, tu peux te retrouver surpris à des moments où il ne faudrait pas. Donc oui, le côté pratique, tâtonnement qui est lié à une expérience, ou alors d'avoir déjà des facilités de ce point de vue-là, quelque chose de préexistant dans la compréhension, dans l'écoute. Mais tu vois, quand j'entends des notions en psychologie, enfin... Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas avec des cours magistraux au sens actuel du terme et pas au sens réel de la chose que tu peux acquérir les savoir-être et qu'elle évoque, quoi.
Un accompagnement, alors comment, je sais pas, mais un accompagnement de l'expérience, enfin je sais pas, effectivement c'est moi ça m'interroge beaucoup, hein, parce que je me dis, enfin pour moi quand je l'entends, c'est une leçon d'humanité, en fait.
C'est à ce moment-là que tu peux le prendre dans le sens les humanités à l'ancienne, quoi. Donc c'est littérature et sciences humaines, mais c'est vrai que oui, on entre dans des choses où ça va être recherche-action, psychologie clinique.
Mais en même temps, ils ont un truc qui est vachement intéressant, les Suisses. Tu sais, c'est les prostituées pour les handicapés.
Oui.
Et ça serait peut-être intéressant de voir justement quels sont les critères de recrutement et s'il y a des formations, etc. Parce que justement, là, le côté humain, il doit vachement être pris en compte.
Doit y avoir aussi sur des contenus sur connaissance des handicaps. Puisqu'il y a prise en charge des personnes avec les problèmes de mobilité, etc. C'est ce que sur le côté ergonomie, c'est quoi porter une personne, etc. Quoi.
Déjà, donc, c'est intéressant le fait qu'il y ait ce genre d'assistante, on va dire.
Et pourquoi tu dis féminin? Ça y est, il recommence.
Parce que dans les reportages que j'ai vus, c'était surtout des filles. Bon, ça, en fait,
une minute, on laisse à Griselle dire le mot de la fin, peut-être.
Ouais. On ne va pas se laisser piéger et écraser par des choses qui ne sont pas justes.
C'est ça la leçon de votre vie, s'il y en avait une?
Oui, moi je résisterai jusqu'au bout. Voilà.
Vous êtes toujours battu contre la morale, entre parenthèses, la morale bourgeoise.
Contre les abus de la morale. Contre les abus de la morale. Il faut une certaine morale. Autrement, c'est l'anarchie complète, tout le monde s'entretue à tous les coins de rue. Non, il faut une certaine dignité dans la morale, mais il ne faut pas d'hypocrisie dans la morale.
Moi, personnellement, j'ai rien à ajouter.
Non, moi non plus. Juste peut-être que vous pouvez aller voir une autre interview de Griselidis Réal sur la page de Salut les PD sur Facebook.
Bah, oui, qu'est-ce que... Ouais,
likez Salut les PD sur Facebook. Faites un like. Ouais, j'aime ça. Parce qu'elle n'est pas très vieille, cette page. Profitez-en. La
c'est
page
fini.
Du groupe va être désactivée.
Ciao.